CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous dans ce MAG. Aujourd'hui, entièrement et exclusivement consacré à une conférence de l'Université populaire de Caussade sur le système éducatif français, pourtant sans aucun lien avec la grève massive dans les écoles, collèges et lycées qui s'annonce demain.
CFM.
Le système éducatif français, état des lieux et perspectives. C'est une conférence qui nous est proposée pour ce samedi par l'Université populaire de Caussade, où on parlera des spécificités du système éducatif français, de ses performances, du lien entre éducation et inégalité sociale, avec David Allary. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à la Toulouse School of Economics et vice-président de l'Université Toulouse 1 Capitole, plutôt bien placé pour en parler. Une conférence donc qui commence par revenir sur le système éducatif français. Qu'en est-il ?
Alors d'abord, juste une petite précision, je suis ancien vice-président de l'université, j'ai terminé mon mandat l'an passé, mais la conférence étant prévue et reportée pour cause de Covid, au moment prévu j'étais bien vice-président, ce n'est plus le cas actuellement. Alors l'enseignement supérieur français est organisé en gros en deux types d'établissements qui sont séparés les uns des autres, les grandes écoles avec les classes préparatoires aux grandes écoles et l'université. Et ce qu'on observe depuis maintenant 20 ans, mais même depuis les années 80, c'est que l'université a absorbé la croissance des effectifs de lycéens qui arrivent jusqu'au bac, qui vont jusqu'à l'université. Et donc, ce qu'on observe, c'est que, alors certes, les effectifs de classes préparatoires et d'écoles d'ingénieurs ont augmenté, mais nous sommes passés en 40 ans de moins de 800 000 étudiants à plus de 2 800 000 étudiants, et que c'est l'université qui a absorbé ces gros bataillons de lycéens.
Alors, c'est ça un impact.
Oui.
La différence entre université et école, concrètement, à part qu'on paye les écoles beaucoup plus cher.
Ah non, on ne paye pas nécessairement les écoles. Les écoles d'ingénieurs sont principalement, par exemple, publiques, et donc on ne paye pas nécessairement très cher une école d'ingénieurs. Une école de commerce, oui, on va payer. Elles sont essentiellement privées. En fait, elles dépendent souvent des chambres de commerce et d'industrie des régions, et donc elles sont en ce sens-là, non pas financées par le ministère, mais financées par ces chambres de commerce, et donc on demande aux étudiants de payer. En fait, c'est pas le principal, la différence entre les deux systèmes. La différence entre les deux systèmes, c'est que l'université est ouverte, donc ne peut pas sélectionner les étudiants, alors que le système des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs passe par un système de classes préparatoires qui, elles, sont sélectives. Donc en fait, la grande différence, c'est la sélection. Le deuxième point, c'est que les grandes écoles passent par le système donc des classes préparatoires qui sont organisées dans des lycées. Et donc qui sont dans l'enseignement secondaire et pas dans l'enseignement supérieur. Donc on a un système organisé de deux façons différentes. Un système de grande école sélectif, et vous avez raison, parfois payant, et un système universitaire non sélectif et non payant. Donc c'est ça la différence majeure. Donc ce qui fait que, en France par exemple, vous avez en gros 85 000 étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles, alors que vous avez 1 600 000 étudiants qui rejoignent les universités. Donc il n'y a pas de sélection. La sélection pour les grandes écoles conduit presque tout. Il y a autant de places en école d'ingénieur et en école de commerce que de places en classe préparatoire. Donc les étudiants, une fois rentrés en classe préparatoire, ont devant eux des perspectives de réussite très très importantes. Alors qu'à l'université, vous avez en fonction du bac, et c'est de là que je parlerai du système éducatif dans le primaire et dans le secondaire, vous avez à partir du bac des taux de réussite qui sont extrêmement différents et qui recouvrent des situations très différentes, avec un taux d'échec très important en première année, notamment pour certains types de bacs. Mais j'y reviendrai plus tard si vous le souhaitez.
Alors vous dites presque que l'université c'est une voie de garage.
Alors non, c'est pas une voie de garage. Parce que effectivement, une fois qu'on a réussi sa première année puis sa licence, on arrive sur des masters, et quand on regarde les taux d'insertion professionnelle des différents masters, ils sont presque équivalents au taux d'insertion professionnelle des grandes écoles ou des écoles d'ingénieurs. Un taux d'insertion professionnelle après un master, par exemple, de droit ou d'économie, c'est autour de 95%. Donc, pour des étudiants qui ont un master, le chômage à la fin des études est extrêmement réduit. Donc, dans ce sens, ce n'est pas du tout une voie de garage. Par contre, effectivement, pour ce qui est de la première année de licence, on se retrouve avec des situations très compliquées en fonction, là aussi, du bac, du chemin qui a été suivi par l'élève dans le secondaire et dans le primaire. Et si on regarde, par exemple, le taux de réussite des bacs professionnels à l'université, il s'établit pour la licence en 3 ans à 2,5%. Et si on regarde la licence sur 3 et 4 ans, hein, ce sont les chiffres du ministère, il s'établit à 5%. Donc on a, en fait, pour ces étudiants-là issus de bac professionnel qui rejoignent une licence à l'université, on a un taux d'échec qui est de 95%. Donc effectivement, pour ces étudiants-là, on pourrait parler de voie de garage. Et ils ne peuvent pas réussir. Et à nouveau, c'est tout le bilan et les perspectives de, cette conférence, c'est de discuter de comment on peut arriver à amener des élèves via le secondaire et le primaire jusqu'à un bac, puis leur permettre d'aller à l'université quand on regarde un peu objectivement les taux de réussite à l'université. Donc non, l'université n'est pas une voie de garage, loin de là, mais en fait, ça dépend vraiment de tout le système éducatif que l'on a suivi et de tout le système dans son ensemble. Et c'est de là qu'il faut tirer des bilans et un bilan et des perspectives.
De là, on tombe sur le lien entre éducation et inégalité sociale. Il est facile de prévoir qu'un élève qui donc est en bac pro n'aura pas forcément sa licence. Je fais des généralités, hein.
Oui, mais c'est un peu le message que je veux faire passer, effectivement. Hein, c'est un message qui est assez général. Mais oui, en fait, sorti quelques cas particuliers des histoires personnelles, hein, 2,5% de réussite, on peut vraiment parler d'histoires personnelles. Sorti ces histoires personnelles, on voit bien que le schéma qui est pour des raisons quelque part dans l'orientation, soit en troisième, donc à la fin du collège, soit en seconde, donc dès le début du lycée. On a des étudiants qui vont, parce que là je prends l'exemple des bacs professionnels, mais les bacs technologiques, c'est pareil, hein, le taux de réussite tourne autour de 10%, même 9%. On conduit des étudiants, des lycéens et des collégiens, hein, puisque l'orientation pour les bacs pro se fait en fin de collège, on les conduit vers une situation où ils ne pourraient pas réussir à l'université. Alors, il existe d'autres formations. Il existe les BTS, qui sont plus adaptées, donc les formations dites de sciences et techniques, donc pour le technicien, dites STS, qui sont plus adaptées pour des bacheliers professionnels. Donc, l'idée que tout élève de lycée puisse aller à l'université, puisse aller suivre des études supérieures générales, n'est pas bonne et donc impose de réfléchir plus en termes d'orientation de l'élève, mais dès le lycée et peut-être même dès le collège. Et donc c'est un peu tôt parce qu'effectivement un collégien qui est en troisième, qui a 14 ans, on ne peut pas lui demander de savoir déjà, où il est compliqué de lui demander de savoir déjà ce qu'il veut faire après son lycée.
C'est un peu ce qu'on leur demande pourtant.
Et pourtant on leur demande. Et pourtant leur choix qui sont faits pas nécessairement de manière éclairée. Et on voit bien que, par exemple, Parcoursup a un effet un peu pervers, parce que, en fait, on demande aux étudiants de se positionner en terminale, alors qu'en fait, le choix des spécialités avec la réforme du baccalauréat se fait dès la fin de la seconde. Ils abandonnent même une spécialité en fin de première, avant même d'avoir l'information qui est donnée par Parcoursup sur les filières à l'université. Et d'ailleurs en dehors de l'université. Donc là, on a tout un problème de transmission d'informations aux lycéens et même aux collégiens pour que leur choix soit fait, le choix des familles. Hein, parce que souvent, un élève de troisième, c'est pas lui qui va choisir d'aller en filière générale ou en filière professionnelle. Un élève de seconde, c'est pas lui. Hein, c'est souvent une décision qui est prise entre les professeurs et les parents. Et néanmoins, ça veut dire que ce choix-là, il est fait souvent sans avoir conscience des conséquences. Sans avoir conscience des portes qui se fermeront. Alors, elles ne seront pas fermées pour l'université, je vous l'ai dit, c'est pas sélectif. Donc, elles ne seront pas fermées par la loi ou par l'organisation, mais elles seront fermées de facto par la réussite ou l'échec en fin de première année.
C'est pas très rassurant ce que vous nous dites là, David Allary, concernant ce système éducatif français. Il y a pourtant des propositions de systèmes alternatifs dont on va parler après la musique. J'en profite. Petite pause dans ce mag du Tarn-et-Garonne. Dans ce mag du Tarn-et-Garonne, on est avec David Allary, enseignant-chercheur à la Toulouse School of Economics, ex-vice-président de l'Université Toulouse 1 Capitole, et présent ce samedi à Caussade sur une invitation de l'Université Populaire pour donner une conférence gratuite sur le système éducatif français, état des lieux et perspectives. Alors, on l'a vu en première partie de ce mag, c'est pas très rassurant, hein.
Non, en fait, il faut nuancer. Déjà, il y a des choses qui sont faites au niveau des lycées, hein, c'est ce qu'on appelle les programmes plus 3, moins 3, c'est-à-dire plus 3 ans d'études après le bac, niveau licence, moins 3, c'est-à-dire les 3 années de lycée. Donc il y a de plus en plus maintenant un travail qui est fait pour intégrer ce dont je parlais, hein, l'orientation entre le lycée et l'enseignement supérieur. Le nombre de places, par exemple, dans les filières dont je parlais déjà, STS, donc de techniciens supérieurs qui sont à destination plutôt des bacs pro, le nombre de places a fortement augmenté et ce sont des formations qui sont beaucoup plus en adéquation avec les profils des étudiants de bac pro. On a aussi beaucoup renforcé l'apprentissage dans ces filières pour avoir effectivement des étudiants, donc des jeunes qui sont formés en adéquation avec leurs compétences pour des métiers. Donc là, donc le bilan, comme ça, en première intention, n'est pas effectivement très, très optimiste, mais à moins que les choses soient faites qui redonnent du sens en fait aux études et qui permettent une meilleure insertion professionnelle pour les élèves, meilleure adéquation de leur formation avec leur profil. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Néanmoins, encore une fois, le premier bilan, c'est cette idée que tout le monde doit aller dans le supérieur, donc qui est fondé sur des études qui existent. Et donc, le problème est la massification de l'enseignement supérieur. Et donc, il y a une vraie question qui n'a pas été vraiment tranchée sur 80% ou 90% maintenant d'une classe d'âge bac, avec un taux de réussite au bac qui est énorme. Et le bac, vu par l'enseignement secondaire, comme en fait la porte de sortie de l'élève de l'enseignement secondaire. Sauf que le bac actuellement, c'est aussi la porte d'entrée dans le supérieur. Donc il y a vraiment à repenser l'interaction et l'orientation des élèves, c'est le point principal. L'autre aspect, on met beaucoup d'étudiants à l'université, je vous l'ai dit, 1 million, en gros 600 000, entre 600 et 800 000 étudiants à l'université, ce qui demande beaucoup de moyens. Et donc on a une question qui est le nombre de places dans le supérieur qui reviennent dans les médias tous les étés quand il y a Parcoursup et qu'on a un certain nombre d'élèves de lycée qui se retrouvent sans place. Les ministres, quels qu'ils soient, du supérieur disent « Ah mais on va créer des places pour que tout le monde ait une place ». Créer des places, ce sont des budgets supplémentaires. Et la vraie réflexion à mener, à mon sens, c'est est-ce qu'on doit être, j'ai envie de dire, court-termiste ? C'est-à-dire raisonner l'été venu au moment de Parcoursup à créer des places pour ceux qui n'en ont pas, donc à allouer du budget pour ces créations de places. Et là, je prêche pour, en l'occurrence, une paroisse autre que la mienne, moi qui suis universitaire. Ou est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas allouer ces budgets aux primaires et aux secondaires pour mieux orienter et mieux former les élèves, et notamment... On en revient sur les inégalités sociales. Quand on regarde la structure des catégories socio-professionnelles à l'université, on observe, et encore plus dans les classes prépa et les écoles d'ingénieurs, une surreprésentation des enfants de cadres et de professions intellectuelles par rapport aux enfants d'employés ou aux enfants d'ouvriers.
Alors, il se dit quand même que le niveau du bac baisse ces dernières années, que les métiers manuels n'ont plus tellement la cote, qu'il devient normal de faire des études, des longues études à l'université. Après, peut-être qu'on peut comparer ce système éducatif français avec d'autres pays. Il y a une étude qui a été menée dans une quatre-vingtaine d'autres pays qui font un petit bilan de l'enquête, peut-être
Oui, alors... C'est des enquêtes de comparaison, donc il faut toujours se méfier de ces enquêtes. Si vous prenez les meilleurs pays, entre guillemets, sur l'enquête PISA, eh bien vous voyez que la Corée du Sud, par exemple, est tout en haut des classements. Alors, deux points, il est extrêmement difficile, ne serait-ce que par la taille de la population ou la structure de la population, de comparer la France avec la Corée du Sud. Il faut toujours se méfier des enquêtes, il faut comparer si c'est comparable. Et même au niveau européen par exemple, il faut faire attention entre un pays comme la Finlande qui est tout en haut des classements et la France. Donc déjà, comparons-nous à ce qui est comparable. Et déjà, c'est très intéressant parce que comparons par exemple la France à l'Allemagne. L'Allemagne réussit bien mieux ses enquêtes PISA, qui évaluent le niveau donc des élèves à la fin du secondaire et à la fin du primaire. Les élèves allemands réussissent mieux que les élèves français, et notamment qui faisaient l'orgueil à un moment donné de l'école française, par exemple en mathématiques. Alors, en fait, il faut déjà faire attention. Ils réussissent mieux en moyenne, ce qui veut dire que si vous prenez l'étudiant moyen, il réussit mieux. Si vous prenez les étudiants d'un niveau, entre guillemets, un peu faible, ils réussissent également bien mieux en Allemagne qu'en France. Par contre, si vous prenez les meilleurs étudiants, les meilleurs élèves, en l'occurrence au primaire ou au secondaire, là, les étudiants français réussissent mieux. Donc, comment on peut interpréter ces résultats? Eh bien, c'est que le système éducatif français réussit assez bien à former les bons élèves et réussit moins bien à former les moins bons élèves. Et on sait également que ces moins bons élèves sont très souvent issus plutôt de classes socioprofessionnelles défavorisées que de classes socioprofessionnelles favorisées. Hein, le nombre de mots, par exemple, connus par un élève qui rentre en maternelle est très fortement lié à la catégorie socioprofessionnelle des parents. Donc plus vous êtes défavorisé, moins vous connaîtrez de mots, et donc plus vos études seront complexes. Et donc là, on peut comparer avec un pays de taille équivalente à peu près ou d'organisation sociale équivalente comme l'Allemagne et se demander quelle est la question, quel est le problème. Donc il y a plusieurs éléments de réponse. Mais je reviens sur mon histoire de budget initial. Est-ce qu'il vaut mieux que je répartisse, que je mette 6 000 euros dans le supérieur pour un élève qui arrive dans le supérieur en licence? Et s'il a un bac pro, vous pouvez toujours me donner plus de place ou des moyens supplémentaires. J'aurais du mal à lui donner des bases dans le supérieur, de points qu'il aurait dû voir au lycée ou au collège et qu'il n'aurait pas vu. Et donc, peut-être qu'une utilisation qui serait un peu plus efficace du point de vue de la dépense publique serait de mettre cet argent au primaire ou au secondaire pour accompagner l'élève vers plus de réussite. Le deuxième point dont vous avez parlé, qui est très pertinent, c'est faut-il que tout le monde fasse des études supérieures? C'est une excellente question, et ce n'est pas le cas dans tous les pays. À nouveau, si je compare avec un pays de taille équivalente et d'organisation équivalente, hein, comme l'Allemagne par exemple, ou d'autres, l'Italie, d'autres pays, eh bien, il coexiste des universités, disons, généralistes, qui ont vocation à aller dans la concurrence internationale, la concurrence mondiale, avec les classements internationaux dont on nous parle, hein, le classement de Shanghai, et ainsi de suite, qui forment donc assez peu d'étudiants à des études très longues et très générales. Et à côté, existent des établissements d'enseignement supérieur, des universités, qui vont former des techniciens, donc des gens qui sont compétents pour aller occuper certains métiers, et qui iront alimenter un marché du travail beaucoup plus local. Il n'y a aucun problème à avoir ce type de distinction qui existe à peu près dans tous les pays, hein, sauf en France. Donc l'idée, c'est juste de... on n'attend pas les mêmes choses des étudiants. Les étudiants n'ont pas les mêmes compétences. Formons-les en fonction des compétences qu'ils ont déjà. Et si on veut les changer, qu'on leur propose. Mais par exemple, si on décide que... un travail manuel, hein, à nouveau je prends un exemple un peu bête, mais un plombier doit avoir après son bac pro 2 ans ou 3 ans de formation supplémentaire, de formation supérieure, pour mieux maîtriser les techniques, parce que effectivement, hein, par rapport à il y a 30 ans, maintenant vous avez une technicité du métier qui est plus forte. Mais pas de problème. La question est-ce qu'il doit faire une licence de, je dis n'importe quoi, mais de physique ou de mécanique pour savoir répondre à ça? La réponse est non. Si je lui mets un licence de physique théorique, ça ne lui apportera rien. Donc il faut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on demande, quelles connaissances on veut que les étudiants maîtrisent, pourquoi faire, et de lier les deux.
Sur le système éducatif français. Alors, état des lieux et perspectives, on n'a malheureusement pas le temps de pouvoir faire d'autres propositions de système d'éducation alternatif. Pourtant, ces discussions seront abordées ce samedi lors de la conférence que vous allez donner. David Allary, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à la Toulouse School of Economics et ex, donc contrairement à ce que j'ai dit en début d'émission, ex-vice-président de l'Université Toulouse 1 Capitole. Cette conférence est gratuite, elle aura lieu à partir de 16h30 au Récollet sur une invitation de l'Université Populaire de Caussade et qui sera suivie ce dimanche au cinéma, dimanche à 18h de la projection du film Les Héritiers, sur donc toujours cette invitation de l'Université Populaire de Caussade. La prochaine conférence aura lieu en février, le 19, et elle concernera Caussade et sa région au temps des Qatars. Programme de conférence que vous pouvez retrouver sur le www.up-caussade.fr. Et vous, David Allary, on vous retrouve donc ce samedi à 16h30 au Récollet. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Cet entretien est à retrouver en podcast sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr. Ce MAG sera rediffusé à 21h30, mais pas à 17h exceptionnellement, puisque ce soir et jusqu'à la fin de la semaine de 17h à 19h, on est en direct depuis l'Albi Jazz Festival.